Et je donne, pour conclure notre matinée, la parole à Jean-Marc Mandozio, qui est maître de conférence à Paris et qui a travaillé, lui aussi, autour de ces grands textes secrets. En effet, le De Magia Naturali de Jacques Lefebvre d'Étaples dans le Muse Secrète, encore les vies légendaires d'Apollonius de Tyane dans les légendes médiévales des philosophes, et encore les mathématiques vulgaires, des mathématiques vulgaires à la monade hiéroglyphique, voilà les emblèmes d'Euclide vus par John Dee. Et avant, Ramus et l'université, et aspects de la tradition alchimique au XVIIe siècle. Donc nous sommes en pleine circulation de hiéroglyphes, mystères, alchimie, etc. Donc je vous donne la parole pour bien conclure notre matinée.
Bien. Sachant que je devais parler en dernier, j'ai prévu quelque chose qui sera assez court. Je pense que vous m'en saurez gré. Et donc je ne vais pas parler des hiéroglyphes, mais de la représentation du personnage d'Apollonius, de sa vie et de son œuvre, chez les auteurs des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. J'ai étendu la discussion jusqu'au XVIIIe siècle parce qu'il y a une continuité qui est intéressante. Donc les érudits de ces trois siècles, du XVIe au XVIIIe, n'avaient pas beaucoup d'éléments à leur disposition pour se représenter l'auteur des Hieroglyphica. Et on pourrait dire qu'à part la pétition qui a été découverte plus tard, ils avaient exactement les mêmes éléments qu'on a aujourd'hui. Comme le dira en 1727 l'auteur anonyme d'un article paru dans le Journal des Savants, on ne sait pas trop qui est cet or Apollon. Et un siècle plus tard, en 1835, le philologue Conrad Lehmanns, dans la préface de son édition critique des Hieroglyphica, ne pourra que constater à son tour qu'il y a une grande incertitude parmi les doctes au sujet de l'identité d'or Apollon. Alors Lehmanns classe les érudits qui se sont occupés de cette question en trois catégories. Ceux qui estiment que cet auteur peut être identifié avec un or Apollon mentionné par des auteurs anciens. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'un personnage réel, mais complètement différent des or Apollon attestés par ailleurs. Et ceux qui pensent qu'il s'agit d'un personnage fictif. Cette répartition des opinions résume assez bien la situation, encore que la réalité ait été un peu plus complexe. Dans un premier temps, à partir de la publication du texte grec des Hieroglyphica par Aldemanus, donc dont on a maintes fois parlé à Venise en 1505, popularisé par les traductions latines subséquentes. Alors, comme on sait, l'ouvrage avait déjà bien circulé au siècle précédent sous forme manuscrite, il avait déjà eu des traductions, mais on peut dire que le véritable lancement de l'ouvrage dans l'ensemble de l'Europe savante, c'est la publication par Aldemanus en 1505. Donc, dans un premier temps, l'idée dominante fut que l'auteur de l'ouvrage, qu'on appelait soit Or Apollon ou Horus Apollon, était un Égyptien du IVe ou du Ve siècle, mentionné dans la Souda, qu'on considérait à l'époque comme un dictionnaire écrit par Suidas. Bon. Donc quand je vais mentionner ce que disent les auteurs, je l'appellerai Suidas. C'est ainsi que le présente le bibliographe Conrad Gessner en 1545, dans sa Bibliotheca Universalis, à la notice sur Or Apollon. Suidas, dit-il, nomme cet auteur en deux endroits, et il recense d'autres ouvrages écrits par lui. Gessner ne s'est pas rendu compte que, en fait, la Souda mentionnait deux or Apollon différents, vraisemblablement, comme on le pense maintenant, le grand-père et le petit-fils. Il ne fait en tout cas aucun doute pour le bibliographe qu'Or Apollon était bien né sur les bords du Nil. Il mentionne l'appellation Nélos, en latin Niliacus. Et il ne fait pas non plus de doute pour lui que son ouvrage avait été traduit, donc comme l'indiquait le titre même de l'ouvrage, de la langue égyptienne, c'est-à-dire du copte, en grec. Alors, il faut préciser que Gessner était l'auteur d'un ouvrage sur les langues qui s'appelait Mithridate. Donc, quand il dit la langue égyptienne, il pense très certainement au copte. Donc, que l'ouvrage avait été traduit donc, de la langue égyptienne en grec par un certain Philippe, comme l'indiquait l'incipit de l'ouvrage. Il consacre aussi une notice, puisque son dictionnaire, sa bibliothèque, c'est un dictionnaire des auteurs alphabétiques. Il consacre aussi une notice à Philippe, mais à propos duquel il peut simplement dire « voir ce que j'ai déjà dit à propos d'Horus Apollon », puisque forcément, il n'y avait rien d'autre à dire. Gessner ne doute pas non plus et personne d'autre jusqu'à Champollion n'aura évidemment les moyens de prouver le contraire, qu'Aurapollon décrit exactement l'écriture sacrée des Égyptiens, qui, dit-il, ne nommait pas les choses en utilisant les mots du vulgaire, mais par des images, pour ainsi dire, tirées de la nature. Et le caractère tardif de l'ouvrage n'incite ni Gessner ni ses contemporains à mettre en doute l'authenticité des interprétations fournies par Aurapollon. D'autres savants du XVIe siècle, en revanche, vont scruter à la loupe les maigres informations disponibles sur Aurapollon, en constatant que tout ce qu'il concerne est incertain. La forme exacte de son nom est-elle Aurapollon ou Horus Apollon ? Peut-être était-ce un Égyptien appelé Horus, auquel son traducteur grec avait accolé l'équivalent grec Apollon. Que signifie exactement l'épithète Niliakos, donc en latin, accolée à son nom dans les manuscrits ? Veut-elle simplement dire qu'il était originaire des bords du Nil, autrement dit égyptien, ou désigne-t-elle une localité précise ? Si oui, laquelle ? Je ne vais pas m'attarder ici, je ferai pas dans la version écrite, sur le détail de ces savantes querelles, pour me concentrer sur les questions liées à l'identification du personnage. Alors, les notices de la Souda, mentionnant Aurapollon, ou des Aurapollons, présentaient l'énorme avantage de permettre de rattacher l'auteur des Hiéroglyphica, inconnu par ailleurs, à un contexte historique précis. Le problème était qu'elle décrivait deux Aurapollons manifestement différents, et d'autre part, que la liste des ouvrages de l'Aurapollon grammairien vivant sous l'empereur Théodose II, qui apparaissait comme le candidat le plus vraisemblable, ne comprenait malheureusement pas les Hiéroglyphica. Alors je précise que, pendant toute la période, on a considéré, contrairement à ce qu'on fait maintenant, que des deux Aurapollons mentionnés dans la Souda, le plus vraisemblable était le grammairien, et non pas le petit-fils, le plus récent. Et la principale raison pour laquelle il paraissait plus vraisemblable que ce fût le grammairien, c'était que le second Aurapollon était présenté dans la Souda comme un philosophe, et on jugeait généralement cette appellation de philosophe était un signe, disons, d'hellénisme caractérisé qui était incompatible avec la rédaction d'un traité détaillé sur les hiéroglyphes. Donc ça contraste avec ce qui a été dit hier sur le fait qu'il y avait une certaine qualification des prêtres égyptiens comme une sorte d'équivalent de philosophe. Mais pour les érudits du XVIe siècle, un philosophe, c'est un grec, et quelqu'un qui écrit un ouvrage spécialisé sur les hiéroglyphes, c'est un Égyptien. Bien. Donc, le problème, c'était que le candidat le plus vraisemblable, donc l'Aurapollon grammairien, la liste des ouvrages donnés par Suidas ne comportait rien sur les hiéroglyphes. La philologie ayant horreur du vide et des questions sans réponse, l'helléniste allemand David Heuschel conjectura en 1595 que les hiéroglyphica devaient faire partie de l'un des ouvrages attribués par Suidas au grammairien Aurapollon, le Téménicon ou Enceinte sacrée. Et donc, à ses yeux, un traité sur l'écriture sacrée des Égyptiens trouvait naturellement sa place dans un traité consacré à des questions sacrées. Le problème était qu'il s'agissait d'un écrit en langue grecque, ce qui était incompatible avec le récit standard de sa traduction en grec par Philippe. En conséquence, les érudits qui ont défendu la conjecture de Heuschel, comme les philologues Vossius et Hideler, considéraient que la mention « traduit de la langue égyptienne » était une interpolation tardive destinée à donner un cachet d'authenticité au texte des Hiéroglyphica, qui aurait été donc, dans cette hypothèse, directement écrit en grec dès le départ. Il n'en concluait pas pour autant que cela rendait l'ouvrage d'Aurapollon moins fiable en tant que source sur l'interprétation des hiéroglyphes, parce que la méthode de déchiffrement symbolique qu'il exposait paraissait cohérente, et était cohérente, avec ce que d'autres auteurs de l'Antiquité tardive, comme Plutarque ou le néoplatonicien Jean Blic dans les Mystères d'Égypte, pour ne rien dire de Kérémon, avaient transmis. Donc que l'ouvrage d'Aurapollon, en fait, ait été écrit directement en grec ou pas, ne changeait rien quant à sa fiabilité. De même, au XVIe et au XVIIe siècle, même les auteurs les plus critiques au sujet des témoignages relatifs à l'Égypte ancienne admettaient la fiabilité documentaire des hiéroglyphica. Ainsi, pour un des détracteurs, disons, les plus acharnés des idées concernant l'Égypte ancienne, à savoir le médecin allemand Hermann Conring, qui consacra tout un ouvrage en 1669 à expliquer que les prétendues connaissances médicales des Égyptiens n'étaient qu'une invention des modernes. Pour lui, les hiéroglyphica constituent une source fiable sur le calendrier des prêtres égyptiens. Donc, il admet le fait que Aurapollon était soit un prêtre égyptien, soit quelqu'un qui était parfaitement au courant de leur connaissance. Et le contenu des hiéroglyphes d'Orapollon confirme sa thèse, à savoir, donc, je le cite, que l'histoire naturelle chez les Égyptiens était un tissu de fables ineptes et donc n'avait rien de scientifique, ce qui fait que, en fait, l'authenticité des hiéroglyphica fait que, loin d'illustrer la sagesse des Égyptiens, aux yeux de Conring, elle illustrait leur sottise et leur arriération. Alors, certains philologues, contrairement à Heuschel, pensaient que l'Orapollon des hiéroglyphica ne pouvait être aucun des personnages mentionnés par Lassouda. Ainsi, le jésuite Nicolas Cossin, donc un jésuite français, dans son traité latin sur la sagesse symbolique des Égyptiens, paru en 1618, s'appuie sur le fait que tous les écrits attribués au grammairien Orapollon, donc dans la notice de Lassouda, ont des titres grecs, pour en conclure que ce n'est pas lui qui a écrit les hiéroglyphica, puisque les manuscrits nous disent qu'il les avait rédigés en langue égyptienne. Donc c'est la conclusion inverse de celle de Heuschel. D'autres philologues répondirent à cet argument que cela ne prouvait rien, car la Souda écrite en grec ne mentionnait que des ouvrages grecs, de la même manière que les bibliographes latins modernes ne mentionnaient pas les écrits en langue vulgaire des auteurs qu'ils recensent. Ainsi, le grammairien Orapollon a parfaitement pu écrire des livres en langue égyptienne, non pris en compte dans le recensement des ouvrages d'Orapollon par Suidas. On voit que tous les arguments sont réversibles, en fait, dans ce débat. Un autre argument contre l'identification de l'auteur des hiéroglyphica avec le grammairien Orapollon, alors c'est un argument un peu plus recherché, disons, et qu'il devait nécessairement avoir été initié au mystère des prêtres égyptiens pour en connaître les secrets, ce qui ne paraissait pas compatible avec la modeste profession de grammairien. Alors on pouvait opposer à cela, ça a été fait, l'exemple de Plutarque, qui était à la fois écrivain et prêtre de Delphes. Et donc, Orapollon, quelles que fussent les incertitudes à son égard, étant incontestablement égyptien, son initiation à la prêtrise égyptienne n'était pas incompatible avec une carrière dans la société hellénisée. Bon, vous voyez donc, du fait qu'il était grammairien, etc., on pouvait tirer une conséquence ou son contraire. Alors, dans cette discussion, de manière peut-être curieuse, personne ne paraissait être avisé, puisqu'il s'agit de discussions entre gens très érudits et très antiquaires, si vous voulez, personne ne paraissait être avisé du fait qu'à l'époque où était censé avoir vécu donc le grammairien Orapollon, les cultes païens étaient interdits, donc en application de l'édit de 392 promulgué par Théodose Ier, ce qui aurait nécessairement impliqué une initiation clandestine et dangereuse. Mais cet argument n'est jamais mentionné à ma connaissance. Alors il y avait une autre possibilité, formulée en 1705 par le philologue allemand Johann Albert Fabricius dans sa Bibliotheca Graeca, peut-être qu'Orapollon était un pseudonyme. Dans ce cas, un auteur d'époque indéterminée aurait attribué ses propres écrits au dieu Horus, fils d'Isis et du mythique roi d'Égypte Osiris. L'idée n'était pas nouvelle. On l'a trouvée, comme on l'a d'ailleurs vu tout à l'heure, dès le milieu du XVIe siècle, par exemple, dans la traduction française manuscrite des hiéroglyphica réalisée par Nostradamus, qui attribuait ses notes hiéroglyphiques, vous l'avez vu sur la page de titre, à Horus Apollo, fils de Osiris, roi de Égypte Niliaque. Alors, dans le scénario de Fabricius, l'auteur des hiéroglyphica avait procédé exactement comme les auteurs des textes du Corpus Hermeticum, donc, dont on savait à l'époque qu'ils étaient apocryphes et qu'ils dataient environ du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, l'auteur des hiéroglyphica avait procédé exactement comme les auteurs des textes du Corpus Hermeticum, qui avaient mis leurs écrits sous le nom du légendaire roi d'Égypte, Hermès Trismégiste. Le parallélisme pouvait sembler d'autant plus convaincant que le Corpus Hermeticum lui-même comprenait une lettre d'Isis à son fils Horus. Donc vous voyez, on se dit, il y a une espèce de modèle type du faussaire égyptien tardif qui attribue des textes à Horus et à sa famille. Un tel scénario présentait l'avantage de gommer l'anachronisme lié à la date tardive de la vie d'Orapollon si on l'identifiait avec le grammairien du Ve siècle, mais il faisait de l'auteur des hiéroglyphica un parfait inconnu, tout en le rejetant vers un passé d'autant plus séduisant qu'il était extrêmement flou. Alors, tout au long du XVIIIe siècle, la majorité des érudits se sont moqués de l'hypothèse de Fabricius, mais d'une manière assez injuste, parce qu'ils ont fait comme si le philologue avait prétendu que l'auteur des hiéroglyphica était le dieu Horus, ce qui aurait évidemment été absurde, alors que ça n'est évidemment pas ce qu'il disait. Il disait que l'auteur avait mis ses ouvrages sous le nom d'Horus, ce qui est tout à fait différent. Alors, dans les différentes hypothèses que je viens d'énumérer, sauf bien sûr celle qui affirmait que les hiéroglyphica avaient été écrits directement en grec par Orapollon, on attribuait au traducteur-adaptateur Philippe un rôle important. En en faisant l'introducteur, des nombreux éléments d'origine incontestablement hellénique, inclus dans le texte des Hieroglyphica, et qui n'avaient pas manqué de frapper les érudits dès le XVIe siècle, notamment les étymologies grecques à la base de certaines interprétations d'images prétendument égyptiennes. À nouveau, plusieurs hypothèses étaient proposées. Soit Philippe avait traduit fidèlement l'intégralité des Hieroglyphica, et des annotateurs ou des copistes ultérieurs les avaient interpolés. Soit il n'en avait traduit que des fragments et les avait remaniés à sa guise. Il est courant d'ailleurs de trouver dans les titres des éditions ou des traductions au XVIe ou XVIIe les fragments d'Orapollo. Dans ces deux cas, l'égyptianité du texte original n'était pas mise en cause, car tout ce qui était grec était dû à Philippe. On supposait dans ces hypothèses qu'on pouvait en quelque sorte faire une distinction assez nette entre ce qui aurait été authentiquement égyptien et ce qui aurait été des rajouts grecs. Au XVIIIe siècle, toutefois, un certain nombre d'auteurs mirent en doute l'origine égyptienne des Hieroglyphica en suggérant que leur auteur était probablement Philippe lui-même. Ou alors un Orapollon qui, à ce moment-là, était décrit comme un auteur sot et ignorant. Il faisait également remarquer que Philippe, ou bien l'Orapollon sot et ignorant, qui aurait donc écrit l'ouvrage en grec, écrivait un grec qui était fort mauvais, ce qui faisait pencher pour une rédaction beaucoup plus tardive que le Ve siècle. Une hypothèse extrême fut même avancée par un bibliographe français, l'abbé Jean-Joseph Frive, à la fin du XVIIIe, selon laquelle Philippe aurait écrit les Hieroglyphica au XVe siècle, ce qui pouvait évidemment expliquer toutes les incongruités du texte. Et dans ce cas, son invention, ou sa découverte au début du XVe siècle, correspondait en fait à l'époque de sa fabrication. C'est-à-dire que Buondelmonti se serait fait refiler un faux. Dans cette vision donc hypercritique, le monde savant avait été victime d'une supercherie analogue à celle perpétrée précisément à la fin du XVe siècle par le faussaire Agnus de Viterbe qui prétendait avoir retrouvé un certain nombre de textes antiques perdus dont il était lui-même l'auteur. Alors évidemment, l'hypothèse de la fabrication moderne du texte par Philippe ne pouvait être admise que par des gens qui doutaient de la fiabilité des Hieroglyphica en tant que manuel d'interprétation des hiéroglyphes. Mais jusqu'à Champollion, ces sceptiques n'avaient rien de plus solide à proposer. Et malgré toutes les incertitudes liées à l'identification et à la datation des Hieroglyphica, l'ouvrage restait au XVIIIe siècle un élément fondamental de la connaissance de la culture égyptienne. Il faut d'ailleurs préciser à ce propos que même après le déchiffrement réel disons, des hiéroglyphes par Champollion, il y a encore eu deux courants. Un qui considérait que cette découverte avait annulé la validité des hiéroglyphiques d'Orapollon, et d'autres qui considéraient qu'au contraire, il l'a confirmé. Donc, oui. Alors pour en rester au XVIIIe siècle, pour ne prendre qu'un exemple de le maintien de la croyance à la fiabilité des hiéroglyphiques d'Orapollon, l'orientaliste français Joseph de Guignes s'appuyait largement sur Orapollon pour attester que la Chine avait anciennement été une colonie égyptienne, l'un des arguments majeurs en faveur de cette thèse, qui fut vite tournée en ridicule, consistant à faire dériver les idéogrammes chinois des hiéroglyphiques d'Orapollon, en fait, ou à la manière d'Orapollon. Alors, l'histoire de la représentation d'Orapollon par les érudits donc du XVIe au XVIIIe siècle s'apparente à la recherche d'un auteur fantôme. Comme on l'a vu, chacune des interprétations proposées pour l'identifier, en prétendant résoudre une des contradictions ou combler une des lacunes de l'information dont on disposait à son sujet, soulevait à son tour de nouveaux problèmes et de nouvelles contradictions, si bien que personne ne parvenait à fixer ce personnage fuyant, aussi énigmatique que son comparse Philippe. Donc l'auteur réel ou fictif et son double prirent plus ou moins de consistance en fonction des hypothèses retenues, et ce flou contribuait à entourer l'ouvrage d'une aura de mystère. Les incertitudes entourant son histoire et sa transmission constituent, si l'on veut, la matière dont sont faits les songes et les légendes. Malgré cela, la figure d'Orapollon n'a pas donné lieu, pour l'époque dont je parle, et pour autant que je sache, à l'élaboration d'une affabulation biographique. Il faudra attendre pour cela l'œuvre du faussaire Simonides au milieu du XIXe siècle, qui lui a reconstitué une sorte de biographie d'Orapollon. Ce manque d'imagination dans une république des lettres où on n'hésitait pas à broder en cas de besoin pour suppléer au manque de la documentation est peut-être dû au fait, donc une interprétation que je propose, que les hiéroglyphica arrivèrent en Europe sans être précédés par une traduction antique ou médiévale susceptible de préparer le terrain en attisant la curiosité, contrairement à d'autres cas où l'on connaissait les auteurs dont on n'avait pas les textes. Et donc à ce moment-là, l'arrivée de textes nouveaux pouvait s'insérer dans un cadre déjà familier, puisqu'on pouvait situer les auteurs, même si c'était des textes apocryphes, etc., on pouvait leur donner une consistance, comme par exemple Hermestris Mégiste, Apollonius de Tyane, etc. alors que pour Apollon, on n'avait rien. Disons, le texte est apparu en même temps que l'auteur. Ainsi, donc, dans ce cas précis, on s'est intéressé avec passion au texte des Hieroglyphica, dont la méthode interprétative par association d'idées donnait le champ libre aux auteurs pour étendre la notion de hiéroglyphe quasiment à l'infini, comme on l'a vu avec Mino Gabriele, au détriment de l'auteur, dont on se contentait de savoir qu'il était égyptien et donc pourvu de l'autorité nécessaire pour valider cette méthode. Par exemple, le plus célèbre des promoteurs de la méthode hiéroglyphique, Pierio Valeriano, ne se donne pas la peine d'essayer de préciser qui était Aurapollon, peut-être parce que cela l'aurait immédiatement entraîné dans une discussion susceptible de troubler la confiance des lecteurs face à l'argument d'autorité égyptienne qui garantissait la validité des hiéroglyphica et, par extension, celle de toutes les affirmations de Valeriano. Les seuls à s'être intéressés de près à son identification furent donc, pour l'essentiel, les éditeurs et les commentateurs des hiéroglyphica ou ceux qui avaient intérêt à minimiser l'authenticité de cet ouvrage en tant que clé d'interprétation des hiéroglyphes. Merci.